Audiolib présente Millennium 1. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. De Stieg Larsson. Lu par Emmanuel de Koenig. Prologue. Vendredi 1er novembre. C'était maintenant devenu un événement annuel. L'homme qui recevait la fleur fêtait ce jour-là ses 82 ans. Il sortit le paquet de l'enveloppe et retira le papier cadeau. Puis, il souleva le combiné du téléphone et composa le numéro d'un ancien commissaire de police qui, depuis sa mise à la retraite, était installé en Dalecarlie, près du lac Silian. Non seulement les deux hommes avaient le même âge, mais ils étaient aussi nés le même jour, ce qui, vu le contexte, pouvait paraître de l'humour. Le commissaire savait qu'il allait recevoir cet appel après le passage du facteur vers 11 h du matin. Et il prenait son café en attendant. Cette année, le téléphone sonna dès 10 h 30. Il décrocha et ne s'embarrassa même pas de préambule. « Elle est arrivée, je suppose. Qu'est-ce que c'est comme fleur cette année ?»«
Aucune idée. Je vais la faire identifier, une fleur blanche. »«
Pas de lettres, évidemment ?»«
Non, rien que la fleur. »« Le cadre est le même que l'année dernière, un de ces cadres bon marché à monter soi-même. »«
Caché de la poste ?»«
Stockholm. »«
Écriture ?»«
Comme toujours, des majuscules d'imprimerie. » Des lettres droites et soignées. Ils avaient épuisé le sujet et observèrent le silence, chacun à son bout de la ligne, pendant une bonne minute.
Le commissaire à la retraite se pencha en arrière sur sa chaise de cuisine et sussota sa pipe. Il savait très bien qu'on ne comptait plus sur lui pour poser la question qui ferait des clics. La question d'une folle perspicacité qui jetterait une nouvelle lumière sur cette affaire. Ce temps-là était révolu depuis de nombreuses années, et la conversation entre les deux hommes âgés avait le caractère d'un rituel entourant un mystère que personne d'autre au monde qu'eux n'avait à cœur de résoudre. Le nom latin de la plante était Leptospermum rubinette, entre parenthèses Myrtaceae, une plante au port buissonnant relativement quelconque, avec de petites feuilles rappelant celles de la bruyère, et une fleur blanche de 2 cm, dotée de 5 pétales. Longueur totale, environ 12 cm. On la trouvait dans le bush et les régions montagneuses de l'Australie, où elle poussait sous forme de grosses touffes herbeuses. Là-bas, on l'appelait Desert Snow. Plus tard, une experte d'un jardin botanique d'Uppsala allait constater qu'il s'agissait d'une plante rare, très peu cultivée en Suède. Dans son rapport, la botaniste écrivait que la plante était apparentée aux myrtes d'appartement, et qu'on la confondait souvent avec sa cousine bien plus fréquente, Leptospermum scoparium, dont la Nouvelle-Zélande regorgeait. D'après l'experte, la différence consistait en un nombre restreint de microscopiques points roses au bout des pétales, qui donnaient à la fleur une faible nuance rosée. D'une manière générale, la rubinette était une fleur particulièrement insignifiante. Aucune valeur commerciale, pas de vertu médicinale connue, et elle n'était pas hallucinogène. Non comestible, inutilisable comme condiment et sans aucune propriété colorante. Elle avait néanmoins une certaine importance pour les aborigènes d'Australie, qui par tradition considérait la région et la flore autour d'Ayers Rock comme sacrée. Dans son rapport, la botaniste d'Uppsala constatait que si la Desert Snow était peu répandue en Australie, elle était carrément rarissime en Scandinavie. Personnellement, elle n'en avait jamais vu. Mais renseignements pris auprès de quelques collègues, elle avait connaissance de tentatives d'introduction de la plante dans un jardin à Göteborg. Et on ne pouvait exclure que des jardiniers amateurs et des fanatiques de botanique la cultivent dans leur petite serre personnelle. La principale difficulté de son acclimatation en Suède était qu'elle exigeait un climat doux et sec, et qu'elle devait passer les 6 mois de l'hiver à l'abri. Les sols calcaires ne lui convenaient pas, et elle avait besoin d'un arrosage souterrain, directement absorbable par la racine. Elle exigeait savoir-faire et main verte. Théoriquement, le fait que cette plante soit rare en Suède aurait dû faciliter le pistage de l'origine de cet exemplaire, mais concrètement, la tâche était impossible. Il n'existait ni registre à consulter, ni licence à examiner. Personne ne savait combien d'horticulteurs amateurs avaient pu procéder à l'importation aléatoire d'une plante aussi difficile. Cela pouvait aller de quelques-uns jusqu'à des centaines de passionnés de fleurs qui avaient accès aux graines et aux plantes. N'importe quel jardinier avait pu les acheter à un confrère, sans trace ni facture, ou par correspondance, ou à un jardin botanique, n'importe où en Europe. Elle aurait même pu être introduite en Suède au retour.